On va peut-être écouter justement un extrait d'un monologue de Véronica adressé à Alexandre. Véronica, Alexandre.
Vous avez de la chance, Alexandre, d'avoir deux nanas qui vous aiment et qui ont une histoire entre elles. Quand vous serez vieux, sur un fauteuil roulant, gardé par une super nénette qui vous filera des gouttes dans le nez, ou autre part, souvenez-vous de ça. Vous avez eu une super chance, Alexandre, d'avoir deux nanas qui vous aiment et qui s'aiment bien.
Ce qui n'arrive pas toujours. La dernière fois, c'était pas comme ça.
Et marquez ça dans votre petite tête, parce que ce n'est pas bien grande, votre tête.
C'est formidable.
Il y a une subversion douce.
Oui, c'est ça.
À la fois tendre et humoristique. Et c'est, je pense, le monologue dans lequel, on ne l'a pas encore dit peut-être, le film se retourne, puisque pendant une grande partie du film, c'est Alexandre qui parle dans un flux presque ininterrompu de monologues successifs. C'est son arme de séduction. Hein. La séduction passe peut-être par le refus de séduire, mais la parole est aussi pour lui une prise de pouvoir. Et là, finalement, les deux femmes semblent faire alliance.
Oui.
Et tout d'un coup, le tenir à distance comme un objet à son tour. Hein. Vous avez de la chance, Alexandre, d'avoir deux nanas qui vous aiment. Et puis, on parlait de l'absence de l'érotisme. Là, elle évoque l'avenir d'Alexandre. Un jour, une infirmière lui mettra des gouttes dans le nez ou autre part, lui dit-elle. Et il se souviendra qu'il a été aimé comme personne par deux femmes. Il y a une mise à distance de l'élément masculin par les deux femmes qui est complètement inattendue dans le film et qui débouchera sur le grand monologue de Véronica. Et je fais une parenthèse, tu disais, mais quelle voix magnifique, celle de Françoise Lebrun, on sait que...
Oui, parce que je ne l'avais vu, je ne l'avais entendu qu'avec l'image, mais là, sans l'image, je trouve que ça résonne encore mieux.
On sait que Eustache avait envoyé à Françoise Lebrun des enregistrements de la voix de Marinka
Matuszewski,
avec laquelle donc il avait entamé une liaison pour que elle reprenne, elle s'approprie le phrasé, la musique de cette voix qu'elle a travaillée pour faire entendre ce que l'on entend là.
De toute façon, je pense qu'on a parlé des acteurs, on a parlé de ces gens-là, mais c'est des performances incroyables de la part de ces trois acteurs. C'est vraiment un film performatif, au sens...
Tout à fait.
Pas au sens qu'on dirait aujourd'hui performatif pour être performatif, mais c'est quand même des performances d'acteurs non vues précédemment, quasiment.
Oui, Léo, paraît-il, prenait énormément de café et de médicaments pour se rappeler des tunnels de monologues qu'il devait apprendre. Et il y avait une atmosphère houleuse avec Eustache qui vraiment, notamment, qui se mettait très en colère quand il oubliait ne serait-ce que deux mots d'une tirade. Donc c'était quand même, ce sont des performances, comme tu l'as dit, exceptionnelles.
Incroyable,
tout à fait.
Alors, juste ça, Alain Philippon qui dit « Le choc de la maman et la putain à sa sortie, c'était d'abord le sentiment, rarement éprouvé, que le film était en prise directe sur son époque. » Sans la moindre trace de forcing sociologique. Non pas tant parce qu'on y faisait allusion au détour d'une conversation à Jacques Duclos, à Jean-Paul Sartre ou au MLF, ou aux fictions de gauche italienne, mais parce que plus largement, l'après-68 y était saisi au moment de sa retombée. Début de ce qui allait être une longue période de grisaille que Eustache avait pressenti avec autant de lucidité que Godard avait prévu en 67 les éléments de mai avec la chinoise. Pour la théorie et week-end pour les actes. Voilà comment Philippon contextualise ce choc de la maman et la putain, qui donc a été plutôt vu par des intellos au départ et qui ensuite est devenu une référence absolue du cinéma.
Oui, il y a dans le film des moments où l'indifférence affectée, l'impassibilité, dandy de Alexandre se fissure, s'effrite, et où une sorte de colère s'exprime, un véritable même ressentiment social, où la question des classes sociales est posée. au tout début dans son dialogue avec Gilberte, donc, qui, elle, appartient manifestement à la bourgeoisie intellectuelle. Elle est professeure, peut-être d'université ou de classe préparatoire. Et il met en cause ce choix qu'elle vient de lui annoncer de vivre avec un autre homme. Et il lui dit une profession prestigieuse, un héritage culturel et bientôt un jour financier. C'est bien ainsi, ne le niez pas, n'en ayez pas honte. L'argent n'a jamais sali personne. Le parti auquel appartient ton Jules en sait quelque chose. Tu as fait attention quand même avant de tomber amoureuse. Tu n'es pas tombée sur un ouvrier portugais, un travailleur algérien ou même un ouvrier français. Mmh. Alors elle répond, tu sais bien qu'on ne rencontre, et Alexandre achève, que des gens de sa classe. Je sais. Alors, comment nous sommes-nous connus ? Donc, ce ressentiment social, il perce à plusieurs reprises dans le personnage d'Alexandre.
Oui, c'est vrai.
À plusieurs reprises, il souligne qu'il n'a pas d'argent.
C'est vrai.
Il dit qu'il a emprunté de l'argent pour pouvoir payer à Véronica un repas au Train Bleu, là, le restaurant prestigieux de la gare de Lyon. Il met en accusation aussi la nouvelle société et l'admiration béate des filles pour les jeunes cadres, les jeunes patrons, les professions libérales. Voilà, désormais, quel est l'idéal des filles ? Et oui, et puis il évoque Chaban-Delmas. Bon, il évoque la médiocrité de la France. La France qui se relève après mai 68. Et cette manière de se relever est en réalité une sorte de prostitution généralisée.
C'est la désillusion
De compromission et de renoncement à toute forme de noblesse et d'aristocratisme, parce que le personnage de Léo revendique une forme d'aristocratisme ou d'élitisme qui serait éthique, qui serait artistique, qui n'est pas social, bien sûr. Il s'en prend, par exemple, à la crapulerie des gens qui, à la télévision, prétendent être toujours en accord avec eux-mêmes, finalement. Les donneurs de leçons, le parti des vainqueurs, on pourrait dire. On voit même cette attaque contre les cinéastes qui prennent la place des autres, là je le cite, et qui prétendent en outre apporter leur création au monde et l'enrichir. C'est encore le parti des vainqueurs, cela.
Oui.
Je me demande à ce moment-là s'il n'y a pas une allusion à Godard, bien qu'ils doivent beaucoup à Godard.
Oui, mais ça, après, oui. Après,
et tu as lu le passage où il évoque le personnage de Léo, la retombée d'une époque qui est une époque stérile. Il y a eu mai 68, il y a eu les Rolling Stones, et puis depuis 2-3 ans, plus rien.
Voilà.
Plus rien n'advient, plus rien à vivre, plus rien à rêver, plus rien à créer.
Je n'aime que la musique populaire.
Je n'aime que la musique populaire.
Les Rolling Stones, c'est Mozart.
Oui.